VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 22 septembre 2017. John Lyndon et Anne Albertson en direct du studio 13 de VOA Afrique à Washington. À la une ce matin.
Au Mali, signature d'un nouvel accord de cessez-le-feu entre la CMA et la plateforme.
Le document signé hier permettra de résoudre tous les problèmes alourdis de la mise en œuvre de l'accord. C'est la première signature entre la CMA et la plateforme qui est censée avoir la garantie de la communauté internationale.
La tension reste vive au Togo après une deuxième journée de manifestation hier. L'opposition réclame toujours le départ du président fort, Gnassingbé.
La Gambie va abolir la peine de mort. Adama Barrow en a pris l'engagement hier aux Nations Unies.
Les États-Unis accentuent la pression sur la Corée du Nord avec de nouvelles sanctions.
Et puis nous retrouverons Nicolas Pineau pour les sports et Ekia Badou pour la Minute Éco.
Mais tout d'abord, le journal.
Mobilisation de l'opposition togolaise jeudi pour la deuxième journée consécutive en vue de réclamer le départ du président Faure Gnassingbé. Des détails avec Lionel Gaïma.
Les manifestants continuent d'exiger le retour à la limitation du nombre de mandats présidentiels comme prévu par la Constitution de 1992 qui a depuis été modifiée à diverses reprises. En réponse à cette pression, le gouvernement togolais a soumis au Parlement un projet de réforme constitutionnelle limitant à deux le nombre de mandats présidentiels. Toutefois, il a omis le passage clé disant précisément « Nul ne peut effectuer plus de deux mandats », une omission qui, de l'avis des opposants, permettrait au président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, de briguer deux autres mandats après avoir succédé à son père qui avait lui-même dirigé le Togo pendant 38 ans. D'où le boycott par l'opposition du vote prévu au Parlement sur ce dossier, ce qui a ouvert la voie à une consultation par voie référendaire. La tension demeure vive au Togo. Les forces de sécurité ont été déployées en grand nombre à Lomé, la capitale. François Patuel, chercheur pour l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International, a déploré dans un communiqué la répression continue des manifestations dans ce pays ouest-africain.
En Guinée, des centaines de jeunes qui protestent depuis 10 jours contre l'absence d'électricité à Boké ont incendié hier des bâtiments publics dans la ville voisine de Kalaboy, un important nœud de communication pour cette région minière, ont annoncé des sources sécuritaires et des témoins. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour tenter de disperser les manifestants.
En Gambie, la peine de mort est en voie d'être abolie. Le président gambien Adama Barrow s'y est engagé hier devant les Nations Unies, 5 ans après le tollé international causé par l'exécution de 9 condamnés par son très autoritaire prédécesseur Yahya Jammeh. Eddie Isango.
Le chef d'État de la Gambie, élu en décembre 2016, a en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York signé 5 traités. L'un porte sur l'abolition de la peine capitale. Les autres traités concernent la protection des migrants, les disparitions forcées, la transparence des investissements et l'interdiction des armes nucléaires. En signant ces traités, la nouvelle Gambie continue à promouvoir la démocratie et démontre son engagement à protéger la vie des activistes politiques, précisément. Dit la présidence gambienne dans un communiqué. Ces mesures aboliront la peur et garantiront l'état de droit afin que les citoyens puissent exprimer leurs droits civils et politiques, estime M. Barrow. La Gambie a été dirigée d'une main de fer pendant 22 ans par Yahya Jammeh, un ancien militaire. En août 2012, il avait fait fusiller 9 détenus, dont 2 Sénégalais, entraînant une vague de protestations internationales, particulièrement au Sénégal. Il avait ensuite annoncé un moratoire sur les exécutions. M. Jammeh avait fini par concéder la victoire de M. Barrow après avoir résisté pendant près d'un mois, mais il avait finalement quitté les pouvoirs et les pays en janvier à la suite d'une intervention militaire de la CDAO et d'une ultime médiation guinéo-mauritanienne.
La conférence sur la paix au Kasaï s'est achevée hier avec un message d'apaisement d'un proche du chef coutumier Kamuina Nzapo, dont la mort en août 2016 a plongé cette région dans des violences qui ont fait 3000 morts, dont 2 experts des Nations Unies. Lors de la cérémonie de clôture présidée par le premier ministre congolais Bruno Tshibala, des chefs coutumiers ont signé un acte d'engagement pour éviter tout recours à la violence dans le règlement des conflits.
RDC toujours, un journaliste et réalisateur belge indépendant a été arrêté. Les autorités lui reprochent, à cet auteur d'un documentaire sur un artiste de rue à Kinshasa, d'avoir eu des activités incompatibles avec son statut d'étranger. C'est ce qu'a expliqué le responsable de l'Agence nationale du renseignement.
Au Cameroun, trois ONG, Amnesty International, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale et l'ONG Nouveaux droits de l'homme ont, dans un communiqué, demandé la libération de trois étudiants condamnés à 10 ans de prison pour un SMS sarcastique sur le groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Le procès en appel prévu hier a été reporté une nouvelle fois au 19 octobre.
Toujours au Cameroun, trois policiers ont été blessés hier dans un attentat à l'explosif à Bamenda, l'épicentre de la crise liée à la contestation anglophone. C'est ce qu'a annoncé la radio-télévision d'État, citant des responsables qui parlent d'une attaque terroriste. L'attaque n'a pas été revendiquée. Les autorités gouvernementales laissent entendre que cet acte aurait été commis par les protestataires de la crise dite anglophone, a poursuivi la CRTV.
Les États-Unis vont accroître leur assistance humanitaire à quatre pays, dont trois en Afrique. Les précisions de Michel Joseph.
Le Soudan du Sud, le Nigeria et la Somalie sont les pays africains qui bénéficieront de cette augmentation de l'appui américain, le Yémen complétant la liste. Washington allouera une enveloppe additionnelle de 575 millions de dollars à cette initiative, a révélé l'Agence des États-Unis pour le développement international. Ces nouveaux fonds permettront de fournir l'aide alimentaire d'urgence, les soins médicaux, les services d'assainissement, des abris d'urgence et aussi de protéger les groupes vulnérables affectés par les conflits, a précisé l'USAID dans un communiqué. Les États-Unis vont pouvoir fournir de l'eau potable et soutenir les programmes d'hygiène pour traiter et prévenir certaines épidémies, comme le choléra, qui prévaut dans les quatre pays ciblés, souligne l'agence américaine. Des dizaines de millions de personnes ont besoin d'assistance dans ces pays, relève l'USAID, précisant que les fonds additionnels feront passer l'aide humanitaire américaine à ces pays à près de 2,5 milliards de dollars pour l'année fiscale 2017.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump accentue la pression sur la Corée du Nord. Il a signé hier un décret ouvrant la voie à de nouvelles sanctions contre Pyongyang. L'Union européenne et la Chine ont également adopté des sanctions supplémentaires. On fait le point avec Eric Manirakiza.
Un arsenal de sanctions économiques pour tenter de décourager les ambitions nucléaires de la Corée du Nord. En marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, Donald Trump a signé un décret pour punir des personnes et sociétés finançant et facilitant les échanges avec Pyongyang. Cette mesure vise notamment des banques chinoises ou des entités russes. Les banques étrangères auront un choix clair, faire affaire avec les États-Unis ou faciliter les échanges avec le régime hors la loi de Corée du Nord, a précisé le chef de la Maison-Blanche. Il a aussi affirmé que la Banque centrale chinoise a instruit ses banques de juguler leurs échanges avec la Corée du Nord, saluant une mesure très courageuse et inattendue. Parallèlement, l'Union européenne va interdire aux entreprises européennes d'exporter du pétrole vers la Corée du Nord ou d'y investir. Déjà, une liste noire dressée par les 28 États membres compte aujourd'hui 104 personnalités et 59 entités nord-coréennes dont les éventuels avoirs dans l'Union sont gelés et qui sont interdites de visa pour l'Union européenne. Ces sanctions complètent le 8e train de sanctions onusiennes décidé la semaine dernière en réponse à un essai nucléaire de Pyongyang, son plus puissant à ce jour.
Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a accusé hier l'Union européenne de politiser la question de la reconstruction de la Syrie, jugeant inacceptable que les Européens ne veulent pas s'engager tant qu'une transition politique n'est pas mise en œuvre. Ces propos ont été tenus en marge de l'Assemblée générale de l'ONU.
En Allemagne, Angela Merkel, favorite des élections, et son rival social-démocrate tentent ce vendredi de mobiliser leurs troupes et de rallier les indécis en cette fin de campagne que la remontée de la droite nationaliste contribue à tendre. La chancelière de 63 ans, bien partie pour remporter dimanche un quatrième mandat, tiendra un meeting à Munich en soirée, tandis que Martin Schulz, 61 ans, ancien président du Parlement européen, s'adressera à ses sympathisants à Berlin.
Au Mexique, l'espoir de retrouver de nouveaux survivants s'amenuise à Mexico, 3 jours après le séisme qui a fait près de 300 morts, dont une vingtaine d'enfants dans une école, et ce alors que des nuées de secouristes jettent leur dernière force dans la bataille.
L'ampleur des dégâts commençait seulement à émerger à Porto Rico, frappé par le passage de l'ouragan Maria, qui a fait au moins 21 morts dans les Caraïbes et a porté dans son sillage des inondations potentiellement catastrophiques.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
À présent, c'est l'heure de l'économie avec la Minute Éco qui vous est présentée ce matin par Eki Abadou.
La campagne agricole 2017-2018 de l'Office du Niger se déroule dans de bonnes conditions dans le cercle de Massina, au centre du Mali. La production totale attendue au niveau de la zone est de plus de 100 000 tonnes. Mais malgré ces bonnes perspectives, les experts alertent sur le risque d'insécurité alimentaire si rien n'est fait d'ici la fin de la saison à cause de la mauvaise répartition des pluies, la dégradation du réseau de distribution d'eau et le vol d'eau d'irrigation par certains paysans de la zone. Toujours au Mali, les douanes ont enregistré plus de 50 milliards de francs CFA de recettes au mois d'août. Selon le quotidien privé Nouvel Horizon, derrière ce record historique se trouve un mécanisme mis en place par le directeur général, l'inspecteur Ali Koulibaly. Le Sidonia, un nouveau logiciel, a pour objectif de garantir la traçabilité des opérations de dédouanement. Ainsi, les informations sur les marchands sont enregistrés à chaque point de contrôle durant leur acheminement, ce qui permet de savoir avec précision les dates de passage au point de contrôle, le suivi par ces marchandises et les retards subis. À Dakar, à l'issue d'une mission de contrôle menée du 7 au 19 septembre 2017, le FMI s'est inquiété de l'endettement du pays. Le service de la dette, soit la somme que le Sénégal doit payer chaque année pour honorer sa dette, s'est élevé à 24% des recettes de l'État en 2014 et devrait passer à 30% d'ici la fin 2017.
Un générique qui ne trompe pas, c'est l'heure du sport ce matin avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour John, bonjour à tous.
On commence avec le tournoi de l'UFOA et on parle aujourd'hui des demi-finales.
Eh oui, les deux matchs ont eu lieu hier à Cape Coast, au Ghana, et on aura une finale 100% anglophone entre le Ghana, pays organisateur, et le Nigeria. Hier, les écureuils du Bénin ont été battus en demi-finale par le Nigeria, 1-0, un but d'Ali Rabiou. Et puis le Ghana l'a également emporté devant le MENA du Niger, cette fois 2-0. Les buteurs pour les Black Stars, Kizito à la 31e et Sarfo à la 78e. Le match de classement aura lieu samedi entre le Bénin et le Niger et la finale ce sera dimanche.
Le club de Manchester, toujours plus riche, Nicolas, avec des recettes records.
Manchester United qui a annoncé des recettes records pour la saison écoulée, qui a vu le club mancunien réussir le triplé Europa League, Coupe de la Ligue, Community Shield, ainsi que la qualification pour la Ligue des Champions. La saison dernière, le club mancunien a généré des recettes de 659 millions d'euros, des résultats en hausse malgré l'absence des Red Devils dans la Ligue des Champions, mais qui s'explique évidemment par la bonne saison des hommes de José Mourinho.
On parle enfin des quarts de finale de la Coupe des Confédérations, Nicolas.
Dès ce vendredi, le CS Sfaxien accueille le FUS de Rabat après sa défaite 1-0 au Maroc. Les corpos de Mazembe ont déjà un pied en finale après leur victoire 2-1 au Soudan face à Al Hilal Obied. La réception dimanche à Kamalondo s'annonce festive. Accroché à domicile à Pretoria 0-0, Supersport United se déplace en Zambie chez le Zesco. Les attaquants sud-africains devront se montrer plus adroits devant le but. Et enfin, après l'ambiance tendue du match aller au stade du 5 juillet où des incidents ont eu lieu, le club africain devra battre le Mouloudia Club d'Alger.
Et la Ligue africaine des champions se joue aussi ce week-end.
À Casablanca, le Wydad aura un but à remonter face aux champions en titre, les Mamelodi Sundowns. L'USM Alger en ballotage favorable après son match nul, un but partout à l'aller au Mozambique chez le Ferroviário de Beira. À Tunis, c'est l'Espérance qui tentera de contrer la ferveur égyptienne d'Al Ahly qui doit impérativement l'emporter et se montrer très offensif après le match nul de partout à l'aller. Autre club tunisien, l'Étoile Sportive du Sahel, qui devra se montrer beaucoup plus réaliste après le 0-0 obtenu en Égypte face à Al Ahly de Tripoli.
Merci Nicolas.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde Aujourd'hui présenté par John Lyndon. Place à présent au dossier du jour et on commence par le Mali où l'on parle des signatures d'un nouveau cessez-le-feu impliquant l'arrêt immédiat de toute hostilité et la libération des prisonniers. Ce nouveau cessez-le-feu signé est intervenu après plusieurs affrontements entre la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme. Les deux parties s'engagent à faire des patrouilles mixtes dans les zones du nord du Mali. Ces patrouilles mixtes doivent en principe être constituées de soldats de l'armée régulière malienne, de combattants des groupes pro-gouvernementaux et de ceux de l'ex-rébellion. Les détails avec Kassim Traoré.
Ce document obtenu suite à une discussion d'une semaine est basé sur les mesures de confiance. Il permet le retour des combattants de la plateforme dans la localité de Takalot. Fad Ag Al-Mahmoud, secrétaire général du Gatia, membre de la plateforme.
Le document signé hier permettra de résoudre tous les problèmes alourdissant la mise en œuvre de l'accord. C'est la première signature entre la CEMA et la plateforme qui est censée avoir la garantie de la communauté internationale. Je pense qu'il y a une dynamique qui a été enclenchée au niveau de la CDS en ce qui concerne le mouvement des troupes, les nouvelles résolutions des Nations Unies aussi braquées sur la violation des cessez-le-feu. Nous espérons que la communauté internationale, cette fois-ci, sera plus rigoureuse en dehors de ceux qui violent leurs engagements.
Le document insiste aussi sur une cessation immédiate, totale et définitive de toutes sortes d'hostilités. Cheikh Oumar Diallo, politologue.
Bien évidemment, l'opérationnalisation des morts. Il y a également l'opérationnalisation de l'autorité intérimaire à Kidal. Et donc, nous allons voir, nous allons observer. Je note également que le ministre de la Défense est signataire, cela en tant que témoin, avec la communauté internationale. Donc, c'est quelque chose qui ouvre une certaine porte d'espoir, mais un espoir qui reste très mince au vu de ce que nous avons déjà.
Moi, je pense qu'il faut rester optimiste, même si on sait que c'est pas la première fois qu'on a signé quelque chose avec la CEMA. Ça a toujours tourné au drame. Mais malgré tout ça, je rappelle que la paix n'a pas de prix. Il faut toujours accepter les compromis, en restant bien sûr sur ses gardes, en restant vigilant, en espérant aussi que ce sera le dernier document qu'on aura signé.
Les Maliens souhaitent la paix, car le pays a trop duré dans cette situation d'insécurité générale. Abdoulaye Koulibaly, communicant.
C'est une très bonne chose parce que depuis longtemps, le Mali est en train de chercher la paix. Et les partenaires également sont venus aider le Mali pour qu'on puisse quand même retrouver cette paix-là. Si la plateforme et la CEMA décident de faire une trêve définitive, je pense que c'est une très bonne chose pour le Mali. Ça montre quand même l'engagement de tous les partis signataires de l'accord pour montrer à l'opinion internationale qu'ils sont engagés pour la paix au Mali.
Ces engagements signés entre la plateforme et la CEMA ont pour garant l'État malien et la communauté internationale. Ils doivent veiller pour le bon respect de ce document qui permettra le retour définitif de l'État à Kidal. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Mali, toujours plus de 150 000 enfants sont privés d'éducation suite à la fermeture de plus de 500 écoles dans le nord du pays. C'est le constat d'Amnesty International qui appelle le gouvernement de Bamako à régler cette situation. Pour en savoir plus sur les raisons de ce problème d'accès à l'école, Eric Manirakiza a joint à Dakar Gaëtan Moutou, chercheur auprès d'Amnesty International.
Dans les zones affectées par le conflit, c'est-à-dire le Nord Mali ainsi que certains établissements scolaires dans le centre, il y avait une insécurité grandissante de par la prolifération des groupes armés qui font des pressions sur les chefs d'établissement ainsi que sur les enseignants et sur les parents pour que les enfants n'aillent plus à l'école et c'est-à-dire ne suivent plus une scolarité classique. Et donc, devant cette situation d'insécurité, les parents ont préféré ne pas envoyer leurs enfants dans ces établissements et les enseignants ont déserté également certains centres. Il y a qu'à voir, par exemple, autour de la région de Mopti, Gao, sans compter la région de Kidal, et encore sous le contrôle des groupes armés, il y a quand même cette absence de scolarité pour les jeunes enfants. Et nous avons avancé le chiffre de 150 000, qui est le chiffre que nous avons pu croiser avec d'autres sources. Nous estimons que l'éducation est un droit et l'État malien, par conséquent, va souscrire aux engagements qu'il a pris vis-à-vis de son peuple et vis-à-vis de la communauté internationale.
Ces enfants n'ont pas donc accès à la scolarité. Est-ce qu'ils sont en sécurité chez eux? Où est-ce qu'ils se trouvent en ce moment?
La majorité de ces enfants, comme dans beaucoup de pays, quand ils ne sont pas dans des établissements scolaires, ils errent dans la région. Il y a quand même ces attaques de groupes armés contre des civils et des points militaires. Donc, si vous voulez, il y a quand même une insécurité grandissante dans les régions que je viens de citer.
Est-ce que la situation actuelle est liée à un manque de volonté quelconque ou l'État se trouve dans l'incapacité lui-même?
C'est souvent le cas quand on s'adresse aux autorités. On parle de moyens. C'est le leitmotiv quand on discute avec des autorités. C'est-à-dire, les moyens, nous sommes victimes d'attaques de groupes armés, mais nous avons également les forces des Nations Unies qui soutiennent l'État malien. Et nous estimons qu'on va créer des sanctuaires pour que les enfants puissent avoir accès à la scolarité.
En dehors de l'État, il y a d'autres acteurs qui interviennent dans le domaine, comme l'UNICEF par exemple. Est-ce qu'ils se manifestent?
Oui, il y a des organismes qui s'occupent de l'humanitaire, qui soutiennent l'État malien. Mais nous estimons que le rôle premier d'un État, c'est véritablement d'assurer d'abord la sécurité et de faire en sorte que les droits des populations soient respectés, dont le droit à l'éducation.
Gaëtan Moto à Dakar.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
Polémique à Kinshasa après la décision du gouvernement d'invalider dans un mois les passeports semi-biométriques que détiennent de nombreux Congolais vivant au pays comme à l'étranger. Des manifestants contre cette mesure ont même été arrêtés puis relâchés. Et un député de l'opposition a déposé plainte hier devant la Cour suprême de justice et la Cour constitutionnelle dans l'espoir d'obtenir l'annulation de cette décision. Reportage de Thierry Kabungi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Près d'une semaine après l'annonce par le vice-ministre des Affaires étrangères de l'invalidation à partir du 16 octobre prochain du passeport semi-biométrique pour laisser place au biométrique, la polémique est loin de s'arrêter à Kinshasa. Des acteurs politiques de l'opposition comme de la majorité présidentielle ont condamné cette décision. Parmi eux, Yves Kisombe, communicateur de la majorité présidentielle et ancien vice-ministre des Affaires étrangères.
Je ne comprends pas très bien la raison d'être de cette mesure qui, manifestement, pose un problème de droit. Et en plus, soulève le tollé dans l'opinion, comme rarement cela se fait.
Comme lui, de nombreuses personnalités de la majorité présidentielle ont manifesté leur désapprobation et demandé au gouvernement l'annulation de cette décision. Le député de l'opposition, Toussé Alonga, attaque la mesure devant la Cour suprême de justice et la Cour constitutionnelle.
J'ai pris ma respectueuse liberté contre une mesure fondamentalement arbitraire. Cette mesure porte en torse aux droits acquis de nombreux Congolais, que ce soit sur le plan intérieur comme à l'extérieur. Ces Congolais ont acquis le passeport à titre onéreux, plus ou moins 200 dollars pour chaque passeport. Et ce passeport a une durée au terme du contenu même de ces documents. Nous avons estimé déposer des plaintes croisées à la fois à la Cour suprême de justice et devant la Cour constitutionnelle, que la Cour constate que cette mesure viole les dispositions de la Constitution, que la Cour déclare la mesure inconstitutionnelle.
Un groupe d'une trentaine de personnes manifestant ce mercredi devant le siège du ministère des Affaires étrangères a été arrêté puis relâché par la police. Des personnes interrogées dans les rues de Kinshasa parlent d'une décision injuste et non à propos.
Notre gouvernement, depuis qu'ils ont commencé avec cette affaire, ils n'ont jamais uniformisé les passeports biométriques jusqu'à aujourd'hui. Dans ce cas, moi, je pourrais dire que c'est irresponsabilité de leur part. Je suis malade, je vais aller en Europe pour aller me faire soigner. Donc, je vais mourir ici au Congo. C'est une façon de souffrir la population congolaise. C'est pas normal.
La pression monte donc. Des députés promettent d'interpeller le ministre des Affaires étrangères, Léonard Cheikh Tundu, une fois de retour au pays. À travers un communiqué, le gouvernement a confirmé la mesure et en a expliqué le bien fondé pour la population. Cette affaire de passeport est loin d'être terminée. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Flambée de choléra dans l'est du Tchad, dans la région de Sila, une trentaine de villages sont touchés par cette épidémie, faisant plusieurs victimes. Mais l'aide d'urgence n'arrive pas dans certaines localités du fait de l'inaccessibilité de la région. On fait le point avec André Kodmajinger, notre correspondant en Djamina.
Le premier cas a été notifié en août dernier dans le district sanitaire de Koukou Angarana, un village situé proche de la frontière soudanaise. Aujourd'hui, c'est plus d'une vingtaine de villages dans la région de Sila qui sont touchés par cette épidémie. D'autres cas ont été également signalés dans le district sanitaire du Salamat, une région voisine. Une situation que déplore MSF Médecins Sans Frontières Roland, qui œuvre aux côtés du gouvernement tchadien dans la zone de l'est du Tchad dans le domaine sanitaire. Roland Kaya, chef de mission du MSF Roland, parle des facteurs déclenchés de ce sinistre dans la zone.
C'est lié aux conditions d'hygiène et d'assainissement, particulièrement l'eau de boisson, c'est la première source de contamination, et aussi la façon dont on manipule les malades, la façon dont on manipule les corps des personnes décédées du choléra. Et vous savez, dans la culture africaine, quand une personne meurt, tout le monde fait toucher, et dans cet élan de solidarité, on oublie parfois de respecter certaines règles d'hygiène de base, comme se laver les mains après avoir salué, se laver les mains après les toilettes, ainsi de suite, et ça fait que la maladie se propage très vite.
Le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Dr Jabar Hamid, donne les statistiques et parle des moyens de prévention.
En date d'aujourd'hui, le nombre total des cas s'élève à 372 cas avec 52 décès, soit un taux de létalité de 14%. Du côté du ministère de la Santé publique, en dehors du dispositif de prise en charge, plusieurs autres activités ont été menées, notamment l'organisation du plaidoyer à l'endroit des leaders d'opinion, les autorités administratives et religieuses ou coutumières, à l'endroit des femmes ménagères, des chefs de concession, des vendeurs de denrées alimentaires, l'organisation des prêches dans les églises et mosquées pour réduire le risque de propagation de la maladie.
Huit autres villages touchés par cette épidémie sont inaccessibles faute d'accès dû à la montée des fleuves et rivières appelées Wadi dans la langue du terroir en raison des pluies diluviennes, alors que la mortalité dans ces villages avoisine 30%. À cela s'ajoute le manque d'infrastructures de santé et de personnel formé à la prise en charge efficiente des malades. Toutefois, Roland Kaya du MSF affirme que l'institution qu'il dirige fait de son mieux pour venir en aide aux victimes.
Les zones sont très difficiles d'accès. Cependant, les équipes font de leur mieux avec les moyens de bord pour atteindre ceux qui sont de l'autre côté. Et nous sensibilisons beaucoup plus les communautés locales d'organiser un système de référence de façon que dès qu'ils suspectent des cas de diarrhée, qu'ils puissent les ramener directement aux unités de traitement.
André Kodmajigar Ndjamena pour VOA Afrique.
Hello, hello, I'm your English host, je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait, retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur Onde Courte, le samedi et le dimanche à 20h30. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel au programme de la bonne musique. Notre sujet de cette semaine, est-ce à l'homme ou à la femme de faire la cuisine dans un foyer? Et ça va chauffer. Est-ce à l'homme ou à la femme de faire la cuisine dans un foyer? Envoyez-nous vos réactions par SMS ou WhatsApp au 001 703 350 37 31, ou contactez-moi sur ma page Facebook Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Ne ratez pas votre émission interactive. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. RM Show, c'est ce soir à 20h, temps universel. C'est sur VOA Afrique et je vous dis à la Peace Africa.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise à nom de par Anne Albertson. Zeynab Abderrahmane était à la console. Présentation John Linden. Merci pour votre fidélité au programme de VO Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VO Afrique et sur voafrique.com. Excellente journée à toutes et à tous.